Léon Gandillo. La physionomie de Léon Gandillo, dont le palais royal représente avec un si vif succès le sous-préfet de Château-Buzard, est trop connue des Parisiens pour que nous n'essayions pas une fois de plus de la décrire. Au physique, Gandillo est un petit homme sec et nerveux, portant la moustache aux pointes cirées et l'impériale, et il quitte rarement son monocle et sa cravache. Notre connaissance ne date pas d'aujourd'hui. Cela se passait en 48 pendant les journées de juin au moment de l'affaire des arts et métiers. Gandillo était alors secrétaire de Ledru Rollin et moi vice-consul du Venezuela à Amboise. Fort républicains tous les deux, amis personnels d'Arago et de Garnier-Pagès, nous n'hésitâmes point à verser notre sang pour la défense des libertés menacées. 4 ans après, le coup d'État envoyait Gandillo à Lambessa, d'où il put s'évader déguisé en ecclésiastique maronite. Gandillo gagna le Canada, où il créa l'industrie de la brique à ressort, puis de là passa aux États-Unis. De cette époque date l'immense fortune de Léon Gandillo. C'est lui qui eut l'idée d'acclimater dans les grandes villes de l'Amérique du Nord les procédés de galanterie en usage dans le vieux monde. Il loua de vastes immeubles, fit venir de l'Europe en général et du quartier Saint-Georges en particulier nombre de jolies personnes point trop bégueules et d'une inlassable complaisance. 6 mois ne s'étaient pas écoulés que sa clientèle était faite, et quelle clientèle! Tout ce que Uncle Sam tombe de mieux en fait de clergyman, d'aldermen et de sénateur. 13 hommes du monde, causeurs charmants, infatigables valseurs, musiciens jusqu'au bout des ongles, Gandillo tenait à ce que ses maisons fussent parfaitement tenues. Il y arrivait. En 1866, nous retrouvons Gandillo en Autriche. À la bataille de Königsgrätz, que nous, dans notre ignorance de la langue allemande, nous appelons la bataille de Sadowa, Gandillo commandait le 3e corps autrichien, en majeure partie composé de Tyroliens. Ces braves gens, entraînés par l'audace de leur chef, se jetèrent en chantant sur les lignes allemandes, on sait le reste. Arrive 70 et son sombre cortège. Gandillo rentre en France et jonge de son cadavre les principaux champs de bataille. On le rencontre à Fritzwiller, à Bazeille, au Bourget, à Châteaudun, à Pont-Noyel, à Pathé, à Dijon, etc. On le rencontre partout. La vocation du théâtre ne lui vint que plus tard, et dans des conditions assez particulières pour être comptées ici. Fort ennuyé par une affaire de chantage, sur laquelle nous aurons le bon goût de ne pas insister, M. Francisque Sarcey cherchait de l'argent coûte que coûte. Un archéologue de Montmartre, décédé depuis, qu'on appelait familièrement Peau de Lapin, mit en rapport M. Francisque Sarcey et Léon Gandillo. Ce dernier, apitoyé par les sanglots du critique, avança la somme qui s'élevait, si nous avons bonne mémoire, à pas loin de 30 000 francs, contre lesquels M. Sarcey livra 100 et quelques 1 000 francs de billets. Hélas, les billets restèrent impayés. Mais Gandillo s'impatientait quand M. Sarcey offrit une combinaison. « Je n'ai pas d'argent à vous donner, dit-il, mais je puis vous rembourser en publicité. Faites des pièces de théâtre, j'en dirai le plus grand bien. » De guerre lasse, Gandillo accepta. Il entra dans le premier café qui s'ouvrit à sa vue, demanda de quoi écrire et composa les « Femmes collantes ». La combinaison réussit à merveille. À l'heure qu'il est, 3h20, M. Sarcey est presque acquitté de sa déréance. Encore une pièce ou deux et M. Gandillo ne sera plus contraint à faire du théâtre. À moins que Gandillo, qui a beaucoup fréquenté les nègres aux États-Unis, ne fasse comme eux et continue. Post-scriptum. J'ai reçu ce matin de M. Francisque Sarcey la lettre suivante que je m'empresse de reproduire. Monsieur, c'est seulement à l'instant qu'on me met sous les yeux une chronique de vous consacrée à Léo Grandillot, dans laquelle ma personnalité et mon nom se trouvent fâcheusement mêlés. Je ne m'attarderai pas à relever les erreurs dont fourmille votre biographie, erreurs qui ont indigné et copieusement affligé les amis de M. Gandillot. Ces rectifications ne me regardent en rien. Gandillot est assez grand garçon pour se défendre lui-même. Pour ce qui me touche personnellement, c'est une autre paire de manches et je tiens sans plus tarder à donner quelques explications sur le fait auquel vous faites allusion dans votre chronique. Fort pressé d'argent, dites-vous, très ennuyé par une affaire de chantage, je dus m'adresser à la bourse de Léon Gandillot. La chose est exacte, mais pour éviter tout malentendu, voici comment cela se passa. C'était quelques jours avant les débuts de Mademoiselle X à l'Odéon. J'avais remarqué la petite au concours du conservatoire où elle avait eu un deuxième prix de tragédie. Elle me plaisait beaucoup. Je le lui avais fait savoir et je pensais bien qu'elle ne débuterait pas à l'Odéon sans venir me dire un petit bonjour. Ça ne manqua pas, ou plutôt ça manqua, car la petite rouée, en voyant en ces lieux et places, devinez qui ? Sa femme de chambre. Je suis extrêmement myope. Ma foi, je n'y vis que du feu. D'ailleurs, la soubrette, admirablement stylée, joua son rôle à ravir. Elle alla jusqu'à me réciter des vers d'un jeune poète néo-moderne dont j'ai oublié le nom. Je me souviens de quelques fragments. C'était intitulé « Mon cœur ». Mon cœur est une armoire à glace inexorable, où tristement gémit un vieux lièvre odourable. Mon cœur est l'ostensoir des femmes sans aveu. Vous ricanez, idiot, moi j'y trouve un cheveu. Mon cœur est un ruisseau qui ne bat que d'une aile. Quand la hyène y vit à boire, oh que tant pis pour elle, etc., etc. Mais vous êtes là à me faire causer poésie et je m'écarte du sujet principal. Qu'est-ce que je disais donc ? Ah oui, la soubrette joua son rôle à ravir. C'était au mois de juillet, il faisait extrêmement chaud et, dame, nous nous étions mis à notre aise. Tout à coup, voilà la porte de mon cabinet qui s'ouvre à un grand fracas. Un grand gaillard, solidement râblé, fait irruption en poussant des jurons à faire crouler toute la maison. C'était le cocher de Mademoiselle X qui venait d'avoir une idée ingénieuse. Moi, je perdis la tête et, pas rassuré du tout, je signais 25 000 francs de billets sous le prétexte que j'avais violé sa sœur. Elle était raide, celle-là, avouez-le. Voilà, cher monsieur, la fameuse histoire du chantage dans toute sa simplicité. Vous voyez qu'il n'y a seulement pas dans tout ça de quoi fouetter une puce. Veuillez agréer, etc. Francisque Sarcey. La lettre de M. Sarcey est trop courtoise pour que j'y ajoute un mot. Si j'ai pu causer le plus petit chagrin au galant homme de la rue de Douai, vous m'envoyez au désespoir. Dernière heure. Un ami intime de M. Sarcey, à qui je viens de montrer la lettre ci-dessus, m'affirme qu'elle n'est pas de l'écriture de l'éminent critique. Selon lui, j'aurais été le jouet d'un mystificateur. Oh, je suis furieux !